Aujourd'hui, je veux vous parler d'un livre américain qui est paru en 2020, qui a été traduit en français aux éditions Gallmaster par François Happ, la même année, donc en 2020. Il s'agit de Betty, qui a eu un succès phénoménal aux États-Unis et qui semble bien avoir le même succès en France. Donc l'auteur Tiffany McDaniel, née en 1985 dans l'Ohio aux États-Unis, est une romancière et une poétesse américaine. Très jeune, elle a écrit de nombreux textes qui n'ont pas toujours été publiés. Et c'est surtout son deuxième roman qui a été remarqué par la critique et qui lui a valu déjà un prix d'ailleurs en France, le prix du roman FNAC 2020. Donc c'est ce livre que je veux vous présenter, Betty. Au début du livre, l'auteur nous explique « Ma mère, Betty, est née le 12 février 1954 à Ozark, dans l'Arkansas, fille d'une femme aussi saisissante qu'un rêve et d'un père Cherokee qui fabriquait son propre alcool de contrebande et créait ses propres mythes. Avec ses 11 frères et sœurs, ma mère a grandi dans les contreforts des Appalaches de l'Ohio. Ce livre est à la fois une danse, un chant et un éclat de lune, mais par-dessus tout, l'histoire qu'il raconte est et restera à jamais celle de la petite indienne. » Et elle termine « Je t'aime, maman. Ce livre est pour toi et toute ta magie immémoriale. » Un petit peu plus loin, elle écrit une autre note. Cette histoire se passe dans les contreforts des Appalaches, dans le sud de l'Ohio. C'est une région où des familles s'épanouissent et où des femmes et des hommes trouvent leur vérité et leur voix. Le sud de l'Ohio peut s'enorgueillir de ses traditions, de sa culture et de son histoire. Il a son propre accent sudiste et son propre parler. Je suis honorée de pouvoir dire que je suis chez moi dans cette région. J'espère qu'après avoir lu ce roman, vous aimerez cette partie de l'Ohio autant que je l'aime. J'espère également que vous prendrez plaisir à lire cette histoire qui puise son inspiration dans la vie de ma famille sur plusieurs générations. Elle s'inspire en particulier de la force de caractère de ma mère et des femmes qui m'ont précédée. Elles se sont dressées face à l'adversité pour affirmer leur propre pouvoir. C'est pour moi un honneur d'avoir pu raconter une telle histoire. » Donc Tiffany McDaniel raconte l'histoire de sa mère et elle la fait parler à la première personne. C'est un livre assez gros puisqu'il fait 716 pages. Il est séparé en 5 chapitres qui suivent une ligne chronologique depuis l'année 1909 jusqu'en 1973. Alors le premier personnage qu'elle nous présente, c'est son père qui a tellement d'importance dans ce livre. C'est un homme donc, c'est lui qui est descendant des Cherokees. Quand j'étais petite, je croyais qu'être Cherokee signifiait être relié à la lune, comme un éclat de lumière qui s'en déroulait au bout d'un fil. Si l'on remonte notre lignée au fil des générations, nous appartenions au clan Anivodi. Les membres de ce clan Cherokee étaient chargés de fabriquer une peinture rouge spéciale qui était utilisée lors des cérémonies sacrées et en temps de guerre. Notre clan était celui des créateurs, me disait mon père, celui des maîtres également. Il parlait de la vie et de la mort, du feu sacré qui éclaire tout. Notre peuple est le gardien de ce savoir. N'oublie jamais cela, Betty. N'oublie jamais non plus comment fabriquer de la peinture rouge, ni comment parler des feux sacrés. Le clan Anivodi était aussi réputé pour ses guérisseurs et ses sorciers, ceux dont on disait qu'ils peignaient leurs remèdes sur leurs malades. À sa façon, mon père était leur héritier. « Ton père est un sorcier !» me taquinait-il à l'école en agitant des plumes sous mon nez. Il croyait que cela me ferait aimer mon père un peu moins, mais je ne l'en aimais que plus. » Pendant toute mon enfance, mon père nous a parlé de nos ancêtres pour s'assurer que nous ne les oublierions pas. Notre terre était grande comme ça, disait-il en écartant les bras le plus possible, lorsqu'il parlait du territoire de l'Est qui avait appartenu aux Cherokees autrefois, avant qu'ils ne soient déportés en Oklahoma. Certains de nos ancêtres Cherokees ont réussi à échapper à l'exil vers cette terre étrangère appelée Oklahoma, en se cachant dans les forêts. Mais on leur a dit que s'ils voulaient rester, ils devraient adopter la manière de vivre des colons blancs. Les autorités avaient décrété que les Cherokees devaient être civilisés ou expulsés. Ils n'ont eu d'autre choix que de parler l'anglais de l'homme blanc et de se convertir à sa religion. On leur a dit que Jésus était mort pour eux aussi. Donc Betty avait la peau foncée des Indiens, ce qui lui a valu beaucoup de brimades, des injures, des paroles racistes, bien sûr. C'est chez son père qu'elle aimait par-dessus tout, qu'elle trouvait du réconfort. Il savait consoler en racontant des histoires qu'il empruntait à la culture indienne, ou qu'il inventait d'ailleurs, des histoires qui parlaient des croyances de son peuple et de la nature surtout. L'âme de mon père était d'une autre époque, d'une époque où le pays était peuplé de tribus qui écoutaient la terre et qui la respectaient. Lui-même s'est tellement imprégné de ce respect qu'il est devenu le plus grand homme que j'ai connu. Je l'aimais pour cela et pour bien d'autres choses. C'est en écoutant son père, d'ailleurs, qu'elle a compris le pouvoir de l'imagination. Non seulement papa avait besoin que l'on croie à ses histoires, mais nous avions tout autant besoin d'y croire aussi. Nous nous raccrochions comme des forcenés à l'espoir que la vie ne se limitait pas à la simple réalité autour de nous. Alors seulement pouvions-nous prétendre à une destinée autre que celle à laquelle nous nous sentions condamnés. Et très tôt, Betty a pris une feuille de papier et un crayon pour écrire les événements qu'elle vivait. Elle mettait ses feuilles d'ailleurs dans un bocal, elle creusait un trou dans la terre et elle y cachait le bocal pour que personne ne voie ce qu'elle écrivait. Elle y racontait les événements heureux et les événements sombres que vivait sa famille. Une famille d'une dizaine d'enfants qui d'ailleurs n'ont pas tous survécu. Il restait Freya, l'aînée, Leland qui s'est engagé dans l'armée, Flossie qui rêve d'être une star et de rencontrer Elvis Presley, Lint, un enfant fragile qui ramasse des cailloux, mais dont on va découvrir la sagesse au fil des pages, Trustine qui a toujours avec lui des crayons pour dessiner, et enfin la petite dernière Betty, celle qui raconte. La petite fille à la peau foncée. Ils ont longtemps mené une vie d'errance, jusqu'au jour où ils s'installent dans l'Ohio, dans une maison en ruine qu'ils vont aménager avec beaucoup d'amour. Des moments heureux, Betty en a vécu avec sa famille, des moments pleins de douceur qui faisaient oublier la misère. Et elle raconte les chansons dans la cuisine, les promenades dans la forêt, les baignades dans la rivière, les Noëls où chacun a droit à un cadeau malgré le peu d'argent qu'ils ont. De très belles pages pour raconter comment leur mère leur faisait oublier qu'ils n'avaient rien à manger. Je vais vous lire ce passage qui est très beau. Page 321. Je n'avais alors guère plus de 4 ans. Leland s'était déjà engagé dans l'armée et papa était absent, ayant trouvé loin de chez nous un emploi dont nous ne verrions pas le salaire avant son retour. Nous étions donc seuls avec maman. Nous n'étions pas dans l'Ohio à cette époque, nous étions dans l'un des États où nous n'avons pratiquement fait que passer. C'était l'hiver et nous avions épuisé toute la nourriture. Maman n'avait pas d'argent pour en acheter. Nous avions tellement faim, mes sœurs, mes frères et moi, que nous restions assis sur le sol de la cuisine comme si nous attendions que la nourriture apparaisse devant nous. Flossie, âgée de 7 ans, pleurnichait en se tenant le ventre. Trustin, qui avait 2 ans, était trop petit pour faire autre chose que se balancer d'avant en arrière. Freya, qui devait avoir 14 ans à ce moment-là, était assise, les jambes croisées, et jouait avec ses cheveux, tandis que Lint, qui avait 1 an, suçait son pouce. Maman nous a regardés. Soudain, elle a pris un grand récipient. Et si on faisait des donuts ? On a tous frappé dans nos petites mains et poussé des hurrahs tandis qu'elle prenait de la farine, du beurre, du sucre et de la cannelle. Nos placards étaient vides. Ses mains étaient vides. Le saladier était vide. Mais elle a mélangé ses ingrédients invisibles. 4 tasses de farine. Après avoir pris le sachet de farine imaginaire, elle l'a lancé en l'air en riant. « Regardez-moi ça, tous mes enfants avec la tête toute blanche !» Elle nous a ébouriffé les cheveux et nous avons imaginé que de la farine en tombait. Puis elle nous a relevés pour qu'on puisse l'aider avec les autres ingrédients. Vous pouvez imaginer de la farine et du beurre si vous avez suffisamment faim. Vous pouvez voir les particules brunes de cannelle dans le sucre blanc si vous n'avez pas mangé ce jour-là ni le jour d'avant. Nous nous sommes passés ces bols vides, nous demandant si nous avions mis assez de ceci ou de cela. Maman chantait en ajoutant du lait fermenté, faisant une pâte qu'elle a roulée sur le plan de travail. Elle s'est servie d'un verre pour découper les ronds. Elle nous a dit d'enfoncer un doigt au milieu de chacun d'eux. « Pas de donuts sans trou au milieu », a-t-elle dit, tandis que nous éclations de rire en enfonçant nos doigts dans le vide. Elle a continué avec une bassine d'huile qui était tellement inexistante qu'une mouche est venue se poser à l'endroit même où nous imaginions voir les donuts s'agiter et bouillonner jusqu'à ce qu'ils soient assez dorés pour qu'on les enlève avant de les mettre à refroidir sur une grille. Regardez comme ils sont beaux! Maman s'est penchée au-dessus du plan de travail vide. Qui les veut avec un glaçage et qui veut seulement du sucre en poudre dessus? « Moi, moi !» avons-nous crié en levant la main. « Très bien, on va en faire avec glaçage et d'autres avec du sucre en poudre. » Elle nous a donné le sachet de sucre imaginaire que nous avons fait circuler de l'un à l'autre, saupoudrant la moitié des donuts tandis qu'elle prenait un saladier et mélangeait le lait avec le sucre. Elle a fait les gestes pour arroser les donuts jusqu'à ce qu'ils soient bien brillants. Puis, assis sur le sol froid de la cuisine, nous avons mangé ces gâteaux invisibles. Ce dont je me souviens clairement, c'est que ma mère n'en a pas mangé un seul. « Il n'en reste plus que 10 !» disait-elle. « Plus que 5 maintenant. Qui en veut ?»« Moi, moi !» Nous avons agité nos mains en l'air. Elle nous a donné tous les donuts, comme s'ils existaient vraiment, comme si elle ne voulait pas en enlever un seul de la bouche de ses enfants. À côté de ces moments heureux, Betty va aussi connaître de nombreux drames. Sa mère tente de se suicider. Pourquoi ? Elle saura le jour où sa mère lui racontera les violences, les viols qu'elle a subis de la part de son père quand elle était enfant. Son père, qui dit-elle, a transformé un ciel bleu en une violente tempête. Elle-même doit affronter les brutalités que lui infligent les autres enfants et les enseignants. Quand on la force à aller à l'école, c'est son père qui l'a obligée d'aller à l'école. Elle ne voulait pas y aller. Sa peau foncée fera d'elle une exclue, une maudite. Elle y subit les pires brimades de la part des enseignants et des élèves. Pourquoi elle est si foncée, madame ? A demandé une fille à l'autre bout de la classe. Parce qu'elle se passe de la cresse, a expliqué la maîtresse. Non, c'est pas vrai, ai-je protesté. Si, c'est vrai. La maîtresse s'est plantée au-dessus de moi. Tu te passes de la graisse sur la peau et tu restes assise toute la journée au soleil à ne rien faire et tu deviens de plus en plus paresseuse et de plus en plus foncée. Je ne mets pas de graisse sur ma peau. Tu mens. Elle a donné un coup de règle sur le dos de mes mains. J'ai senti les larmes me monter aux yeux, mais je ne voulais pas qu'elle me voie pleurer. Je vais dire à mon père que vous m'avez frappée. Si tu le dis, je ferai traîner ton père jusqu'ici et je le ferai battre aussi. Pas vrai. Ah, tu crois? Eh bien, essaie un peu, ma petite, et tu vas voir ce qui va se passer. Elle a tapoté sa règle dans sa paume, tandis qu'elle commençait à expliquer la différence entre la gêne que l'on a à respirer quand on a le nez bouché et les gènes de l'hérédité. Sais-tu ce qu'est l'hybridation ? Elle a prononcé ce mot savant comme si c'était un péché. J'ai secoué la tête. Cela veut dire que le mélange des gènes de ton père avec ceux de ta mère n'est pas naturel. C'est comme si on mélangeait des échardes de bois à du lait et qu'on le vendait au public. Tu aurais envie de boire une bouteille de lait qui contiendrait des échardes, Betty ? Non, Madame Flèche. Ce serait vraiment désagréable, tu es bien d'accord, Betty ?
Oui, Madame Poignard.
Et tu dois aussi admettre, petite Sco, que toi et tes semblables, vous êtes les échardes dans notre bon lait frais, crémeux et sain.
Oui, Madame Couteau.
Elle subit aussi des brimades de la part des élèves, qui un jour, pendant une récréation, l'ont poussée pour la faire tomber. Je suis tombée à plat ventre par terre. Avant que j'aie pu redresser la tête, on a relevé ma jupe tandis que deux enfants me tenaient les bras. « Arrêtez !» a hurlé, pendant que quelqu'un descendait ma culotte jusqu'à mes genoux. « Elle n'en a pas !» dit une voix. « Lâchez-moi » ai-je crié en essayant de dégager mes bras. Les deux qui me maintenaient m'ont libérée. J'ai aussitôt remonté ma culotte et en me retournant, j'ai vu que c'était Rutis qui l'avait baissée. Rutis est une petite fille blanche, je dirais, qui a pris Betty en haine, je dirais, et qui lui en fait de toutes les couleurs. Elle n'en a pas du tout, a dit une autre voix derrière elle. Qu'est-ce que j'ai pas ? Je me suis relevée rapidement, mes larmes coulaient comme du feu sur mes joues. « Une queue !» a répondu Rutis en détournant les yeux. « Comment tu as pu penser que j'avais une queue » ai-je demandé en agrippant ma jupe au cas où il recommencerait. « Je ne suis pas un chat ni un chien. »« Les gens comme toi, ils ont une queue !» a dit un garçon. « Tout le monde dit ça !» ajoutait un autre. « Espèce d'idiot, j'ai pas de queue !» Personne n'avait vu la moindre queue. Mais quand on a regagné nos places, tous les élèves racontaient de quoi elle avait l'air en chuchotant. « Elle avait tout plein de poils noirs et elle était grande comme mon pouce », disait une des filles. J'ai posé la tête sur ma table et je suis restée comme ça tout le reste de la journée. Quand la cloche a sonné, je me suis précipitée et j'ai dépassé les bus sans m'arrêter. Elle court rejoindre son père, qui l'emmène dans la forêt. Chaque fois qu'elle avait un chagrin, elle allait trouver son père et celui-ci l'emmenait dans la forêt. Il l'emmène pour chercher une plante, le ginseng. Et alors son père va l'initier, va lui faire vivre tout un rituel qu'il met en place, justement pour déterrer une plante. Malgré la douleur de sa jambe droite raidie, il s'est mis à genoux, parce qu'il sentait que c'était ce qu'il devait faire. Cela faisait partie de tout un rituel dans lequel il demandait au ginseng sa permission avant de le déterrer. Je me suis mise à genoux près de lui, tandis qu'il fermait les yeux et que ses lèvres commençaient à bouger silencieusement. Je l'ai observé. Ses sourcils étaient crispés et sa concentration se lisait dans la façon dont sa tête était inclinée vers le sol plutôt que relevé vers le ciel. Je me suis demandé si je pourrais jamais parler à la nature avec la même ferveur que lui. Pour l'imiter, j'ai fermé les yeux et posé les mains sur le sol. Au début, je n'ai pas su quoi dire, alors je me suis contentée de sentir la terre molle qui remontait entre mes doigts, la lumière chaude du soleil sur mes épaules, les plantes qui s'agitaient dans le vent et qui caressaient le côté de mes mollets. J'ai été envahie par le sentiment que mes doigts pouvaient s'allonger et se transformer en rivière et que mon corps pouvait rester si immobile qu'il lui serait possible de se changer en montagne. Mes lèvres s'étaient mises à bouger avant même que j'aie pu m'en rendre compte. J'étais en train de demander à la terre d'où elle venait, puis je lui disais d'où je venais, moi. Tout ceci m'a ramené au ginseng auquel j'ai demandé sa bénédiction juste avant d'ouvrir les yeux. J'ai vu papa qui m'observait en souriant. « Allons-y, Betty !» Et c'est de cette façon que Betty sera consolée. Voilà un très beau livre fait de deuil, de violence qui ont traversé plusieurs générations. Mais surtout un livre où on découvre comment Betty a su faire face, a su transcender toutes les tragédies vécues par sa famille, ses plus noirs secrets. Comment l'amour de son père l'a amenée vers l'écriture et la poésie. Et c'est très émouvant de voir une jeune fille naître comme écrivaine. Parce que c'est par les mots qu'elle va pouvoir transcender toutes les violences subies. C'est par les mots qu'elle va trouver en elle la force de ne pas se laisser submerger par tous les traumatismes. Et c'est par les mots qu'elle va parvenir à se construire. Un très beau roman sur la résilience. Je vous lis un dernier passage. Parce que les femmes ont énormément d'importance dans ce livre. Devenir femme, c'est affronter le couteau. C'est apprendre à supporter le tranchant de la lame et les blessures. Apprendre à saigner. Et malgré les cicatrices, faire en sorte de rester belle et d'avoir les genoux assez solides pour passer la serpillière dans la cuisine tous les samedis. Ou bien on se perd, ou bien on se trouve. Ces vérités peuvent s'affronter à l'infini. Et qu'est-ce que l'infini, sinon un serrement confus? Un cercle brisé, une portion de ciel fuchsia. Si on redescend sur terre, l'infini prend la forme d'une succession de collines verdoyantes. Un coin de campagne dans l'Ohio où tous les serpents dans les hautes herbes de la prairie savent comment les anges perdent leurs ailes. Voilà, c'était donc Betty de Tiffany McDaniel, publié chez Gail Master. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.